Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources ? Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute, maman de 6 enfants et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la deuxième saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées en entretien et les points de repère que j'offre en réponse afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
Bonjour Hélène.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de virginité et de chasteté, deux termes qu'on pourrait croire passés de mode, mais qui sont tout de même au cœur des préoccupations de nombreux couples que vous recevez. Justement parce qu'ils ne sont pas toujours bien compris et partant de là, pas toujours bien vécus.
Oui, la virginité n'est plus une valeur à la mode. Cependant, certains couples que je reçois ont à cœur de me préciser qu'ils ont choisi d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Et je vous lis un mail que j'avais reçu. « Nous avons attendu le mariage pour faire l'amour. Nous avons beaucoup réfléchi à notre engagement et au sens que la sexualité avait pour nous. Nous avons attendu notre nuit de noces avec impatience, mais aussi avec de fortes attentes l'un envers l'autre. Nous voulions une sexualité belle et facile et nous pensions que d'attendre le mariage nous y aiderait. Aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas si simple. »
Pourquoi mentionne-t-il ce choix ?
Pour moi, il dit beaucoup des couples et des personnes qui le mentionnent. Je note que la virginité et la chasteté ne sont pas forcément la garantie d'une sexualité plus épanouie.
Alors, on sait tous ce qu'est la virginité, ou plutôt on croit le savoir. Pouvez-vous nous la redéfinir ?
La virginité désigne l'état d'un homme ou d'une femme n'ayant jamais connu de relation sexuelle avec pénétration. La virginité féminine est spécifique puisqu'au niveau physiologique, elle se caractérise par la préservation de l'hymen, une membrane très fine à l'entrée du vagin qui sépare la vulve du vagin. La rupture de l'hymen survient la plupart du temps à l'occasion de la première pénétration, même s'il peut arriver qu'elle survienne au cours de la croissance ou par la pratique régulière d'un sport comme l'équitation par exemple, ou encore par l'introduction d'un tampon.
Oui, c'est bien de le rappeler.
Oui. Dans certaines traditions culturelles et religieuses, la virginité jusqu'au mariage revêt une signification symbolique et morale importante. Elle invite la personne à ne pas vivre de relations sexuelles avant cet engagement, afin que celui-ci soit vécu comme un don total entre époux. C'est par exemple ce que propose l'Église catholique aux jeunes fiancés qui cheminent vers le mariage. Il est à noter qu'autrefois, la virginité était imposée aux femmes jusqu'à leur mariage afin qu'elles ne tombent pas enceintes en dehors de ce cadre, ce qui était mal vu d'un point de vue social, mais aussi pour permettre aux hommes de s'assurer qu'elles n'étaient pas déjà mères et donc de protéger leur lignée et leur héritage d'un éventuel enfant qui ne serait pas d'eux. Aujourd'hui, le désir de rester vierge jusqu'au mariage découle davantage d'un choix personnel et éclairé.
Quand elle est vécue librement jusqu'au mariage, j'imagine que la virginité a du sens.
Oui, choisie librement, la virginité a du sens. Seulement si l'on pense avec conviction que la relation sexuelle comporte une dimension symbolique, comme celle du passage d'un état à un autre, de jeune fille à femme par exemple, ou encore si elle est orientée, c'est-à-dire mise au service de quelque chose de plus grand, de sacré. Préparation à quelque chose qui doit advenir, je pense ici au sacrement du mariage. La virginité, dans ce cas, et pour reprendre les paroles d'une femme que j'ai accompagnée, devient un acte de foi.
Peut-on choisir la virginité pour de mauvaises raisons ?
Certaines personnes me disent avoir choisi la virginité avant le mariage par convention sociale, par obéissance aux valeurs familiales ou encore par rapport à celles de l'Église. Quand elle est choisie par obéissance, une obéissance sans foi, sans confiance, et donc sans que la personne ne soit véritablement convaincue du sens qu'elle revêt, la virginité devient une injonction qui peut empêcher la personne ou le couple de se positionner en tant qu'adulte dans sa sexualité. La virginité est vécue comme une sentence morale ou un interdit, elle perd de sa valeur et inscrit les personnes dans une sexualité régie par des notions de bien ou de mal, sans maturité ou esprit critique. Cela entraîne parfois une attitude ambiguë où la sexualité est expérimentée à travers des baisers et des caresses très intimes mais sans pénétration. Le couple se dit vierge, Mais si la notion de virginité physique est effectivement respectée, la sexualité est tout de même vécue.
Oui, l'hymen est préservé, mais c'est oublié que la sexualité est bien plus large. Alors, est-ce qu'il y a une autre mauvaise raison de choisir la virginité ?
Oui, la peur de la sexualité. Ce choix est la plupart du temps inconscient. J'affirme que je veux attendre pour des raisons morales ou religieuses, mais en réalité, c'est la peur de la sexualité qui guide mon choix et la peur de m'y confronter. Je ne suis donc pas libre. C'est un peu comme si le jeune homme ou la jeune femme attendait le dernier moment pour questionner la réalité ou le sens de la sexualité, notamment à travers la pénétration. Dans ce cas, la sexualité est bien souvent envisagée comme quelque chose de très romantique ou alors dans une perspective tellement sacralisée qu'elle en perd sa dimension réelle, charnelle, imparfaite et pulsionnelle.
La confrontation à cette réalité doit être rude.
Effectivement, voici par exemple le partage d'une femme en entretien. La sexualité me semblait lointaine. Je n'aimais pas mon corps, le sexe de l'homme m'impressionnait, mais je me disais que le mariage arrangerait les choses, que le temps des fiançailles m'aiderait à mûrir. Notre nuit de noces a été une catastrophe et je me suis mise à pleurer quand je me suis retrouvée nue dans ses bras, bloquée pour de nombreuses semaines. Il me semble important de souligner que la virginité ne dit rien de la valeur de la personne, elle n'a de sens que si la personne y adhère vraiment.
Donc de ce que j'entends à travers ce témoignage que vous nous relatez, la virginité n'est pas la garantie automatique d'avoir une sexualité plus belle après le mariage.
Non, la virginité ne rendra pas la sexualité plus belle. Elle peut y participer, bien entendu, mais ce n'est pas magique. Les couples qui me contactent et qui ont choisi de rester vierges jusqu'à leur mariage expriment parfois une déception parce qu'ils s'étaient engagés à vivre leur fiançailles en préservant leur virginité, et le plus souvent avec cœur et conviction. Parfois, après une solide formation sur la sexualité et sur le mariage chrétien, ils pensaient qu'ensuite leur sexualité serait belle et facile, qu'elle serait un vrai feu d'artifice, me disent-ils avec humour. Or, la virginité respectée ne garantit pas une sexualité immédiatement facile et orgasmique, à l'image de ce feu d'artifice. La sexualité du couple est au carrefour de deux sexualités qui se cherchent, qui demandent un ajustement, une progression, une connaissance de soi et de l'autre. Et pour certains couples, oui, ce sera facile, naturel, intuitif, progressif. Mais pour d'autres, la découverte des corps, de la fusion des corps, du plaisir sera plus chaotique. Cela ne veut pas dire que cette découverte en sera moins belle ou moins intéressante, mais j'invite les couples à avoir de la bienveillance par rapport à ce qu'ils vivent.
Oui, cela doit provoquer de la déception quand la sexualité n'est pas aussi fluide que ce que l'on aurait imaginé aimer.
Oui, surtout si la sexualité a été beaucoup fantasmée comme quelque chose de forcément génial. Il y a beaucoup d'attentes, notamment à propos du plaisir, ce qui provoque beaucoup de pression. Les hommes se demandent s'ils vont savoir tenir leur érection ou donner du plaisir à leur femme. Les femmes se demandent surtout si elles vont avoir mal et si elles vont connaître l'orgasme. Une femme me disait que le soir de leur mariage, elle voulait faire l'amour coûte que coûte, mais elle était tellement tendue et son mari tellement fatigué que cette première fois, forcée, on est marié, donc on doit le faire, c'est forcément mal passé. La sexualité est un apprentissage. Cet apprentissage nécessite du temps, la découverte des corps, l'expérience de la nudité dans les yeux et dans les bras de l'autre, la découverte du sexe de l'autre, de son désir, de sa pulsion, la découverte du toucher sensuel dans ce qu'il a d'intime. Parfois, dans cet apprentissage, c'est trop de plaisir, trop de désir, trop d'émotion, trop de tension, ce fameux trop que j'entends souvent en entretien et qui vient desservir les couples parce qu'il construit une barrière entre eux.
Une barrière ?
Concrètement, la barrière peut se vivre au niveau des corps, et je pense aux hommes qui n'arrivent pas à avoir une érection ou qui ne parviennent pas à maîtriser leur excitation. Je pense aussi aux femmes qui se ferment au niveau du périnée et qui ont mal. Je pense aussi aux gestes de rejet. Parfois, tout cela provoque beaucoup de déception, de disputes ou de la frustration.
On comprend du coup vraiment cette nécessité de découvrir la sexualité de façon progressive, mais aussi de respecter le rythme de l'autre. Ce n'est donc pas en une seule fois que tout deviendra magnifique, mais toutes ces premières fois ont aussi leur charme, j'imagine.
Bien sûr, c'est tellement important de le rappeler. Ces premières fois maladroites ont aussi leur charme, évidemment. Finalement, on ne les considérera comme ratées que si l'on avait mis la barre très haut, que si l'on avait des attentes exigeantes. Mais si le couple en discute avant, Si l'homme ou la femme dépose auprès de l'autre son stress ou ses envies, ces premières fois se passeront mieux, se passeront bien. Certains couples ont d'ailleurs de très beaux témoignages de ces premières fois, progressives, douces, respectueuses, touchantes. La première fois ne se résume pas à la première pénétration. Il faut se découvrir par étapes, en accepter la lenteur. Le secret de ces couples est d'avoir su en parler avant, sans fausse pudeur. Et parler de sa sexualité, c'est déjà faire l'amour, vivre son intimité. Ces couples acceptent l'imperfection, ne se focalisent pas sur l'orgasme à tout prix. Ils ont seulement envie de progresser. Ils ont confiance dans leur capacité à partager de belles choses. Ils savent également déjà goûter, apprécier ce qu'ils vivent. C'est une preuve de maturité. Dans une vie de couple, il y aura plusieurs lunes de miel, chaque étape nécessitant de nouvelles retrouvailles, une nouvelle façon de faire l'amour, se retrouver après une naissance, après une longue absence, après une infidélité aussi, ou après un temps de maladie, se retrouver quand le corps vieillit.
Une question parfois posée, peut-on redevenir vierge ?
Non, s'il y a eu une pénétration, on ne peut pas redevenir vierge. En revanche, certains couples que je reçois m'expliquent avoir choisi de vivre leur fiançailles dans l'abstinence, c'est-à-dire sans relation sexuelle. Cela faisait sens pour eux, cela venait marquer le don des corps dans l'engagement du mariage. Ces personnes avaient déjà pu vivre d'autres histoires avant de se rencontrer, connaître une vie sexuelle, mais leur rencontre a changé les choses, soit parce qu'ils ont désiré cette fois-ci cheminer en accord avec les valeurs de l'Église jusqu'au sacrement du mariage, soit parce qu'entre-temps, l'un des deux a vécu une conversion et a accepté d'attendre le sacrement du mariage pour vivre cette union des corps. L'un peut être vierge et l'autre non. Ce qui est important pour le couple, c'est cette abstinence choisie et de comprendre pourquoi celle-ci est importante pour eux.
Alors, on confond souvent deux termes, virginité et chasteté. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la chasteté ?
Alors, la chasteté n'est pas la virginité. Hein. La chasteté, c'est une vertu. Elle ne se résume pas qu'à la chasteté sexuelle, mais comprend l'ensemble de nos relations aux choses, au monde, aux personnes. Et même si ce mot semble aujourd'hui démodé, il peut devenir un véritable appui pour penser notre vie et la rendre meilleure.
Qu'est-ce qu'être chaste concrètement ?
Ben, être chaste, c'est d'abord trouver la juste distance à l'autre. C'est l'accueillir, tel qu'il est, sans désir d'intrusion, de domination, de possession. En fait, c'est le respecter. C'est également accepter qu'il ne pourra pas nous combler ou toujours répondre à nos attentes. Cette chasteté relationnelle est essentielle à vivre tout au long du mariage. L'autre ne peut devenir et ne doit pas devenir notre doudou, notre maman. Il s'agit donc d'apprendre à être autonome au niveau affectif pour construire une relation saine et positive où les différences de chacun seront respectées, où l'altérité devient possible.
Et dans la sexualité, être chaste, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?
Ben, c'est accepter d'être dépendant du désir de l'autre, c'est-à-dire de son rythme, de sa façon d'être. L'autre n'est pas un objet. Il ne peut pas répondre à notre désir de façon parfaite. Cette sexualité invite à mieux comprendre notre désir, à dépasser nos pulsions, à nuancer aussi notre désir de sexualité idéale. Elle accueille la déception et l'imperfection. La chasteté dans la sexualité invite à un travail de connaissance de soi, de l'autre, à un travail de maturité en somme.
Donc on comprend bien que la chasteté est beaucoup plus large que la virginité.
Absolument. La chasteté est un essentiel relationnel. Elle concerne la relation à l'autre. En général, elle se travaille tout au long de la vie et tout au long de la vie de couple. La virginité, elle est temporaire. Ainsi, je peux très bien être chaste et non vierge. Et à l'inverse, je peux très bien être vierge, mais non chaste.
Ah oui ? C'est plus étonnant dans ce sens-là.
Oui, par exemple, si je choisis la virginité avant le mariage, suis-je pour autant chaste si je regarde de la pornographie ? Non, car la pornographie ne m'aidera pas à gérer mes émotions, mon excitation, quand je serai en intimité avec l'autre. Elle pourrait même impacter le regard que je pose sur le corps de l'autre. Mais l'idée est de cheminer et d'avoir la volonté de sincèrement progresser dans la chasteté.
Merci Hélène.
Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram et la page Facebook des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.
Un de vos proches se marie bientôt ? Offrez aux jeunes mariés un abonnement d'un an à Famille Chrétienne pour 85€ seulement. Famille Chrétienne accompagnera au quotidien les jeunes mariés dans leur vie de foi et vie de famille. Ils recevront chaque semaine le magazine Famille Chrétienne et auront accès à nos milliers d'articles en ligne, aux podcasts, aux vidéos ou encore à une newsletter spéciale couple. Pour les abonner, rendez-vous sur boutique.famillechrétienne.fr.